Bonjour Baptiste Hamann, alors vous êtes l'auteur du texte Bunker qu'on vient de découvrir à la Comédie de Saint-Étienne et c'est la promotion 31 qu'on vient de voir sur scène aujourd'hui, c'est leur dernière et leur dernière dans ce théâtre puisqu'ils ont été 3 ans à la Comédie. Première question, comment est né ce texte? Est-ce que c'est une commande d'Adama Diop?
Oui, effectivement, c'est une commande d'Adama Diop. On s'est croisés au Festival d'Avignon en 2021, où il jouait dans la Cerisée de Tchekhov, dans la Cour d'honneur, dans un spectacle de Thiago Rodriguez. Et moi, je présentais un spectacle au gymnase du lycée Mistral, que j'avais écrit et mis en scène. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'écrire la pièce de sortie de cette promotion.
Du coup, est-ce que vous avez rencontré les comédiens? Parce que sur scène, effectivement, il y a leur prénom. Donc on a l'impression que c'est quand même des rôles qui sont assez proches d'eux, finalement.
Alors effectivement, moi, ma manière d'écrire, c'est d'écrire pour une distribution qui est déjà réunie, même quand je travaille en compagnie. Donc là, dans un travail d'école, c'est parfait pour moi. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. On avait des calendriers qui n'arrivaient pas à matcher. Donc je suis parti du trombinoscope. Et puis j'ai écrit à partir d'intuition. Et par contre, oui, j'aime bien utiliser les prénoms des acteurs et des actrices sur scène.
D'intuition, c'est-à-dire?
D'intuition, de ce qui dégageait, de présence, de type de relation que j'allais imaginer entre eux. C'était aussi, il fallait attribuer un peu une fonction à chacun dans cette micro-société qui doit se recomposer, donc qui va s'occuper du soin, qui va s'occuper de la mécanique, qui va s'occuper de l'ingénierie, qui va s'occuper de la nourriture. Donc j'avais des trucs à répartir un peu comme ça. Ça, ce n'est pas fait au faciès, mais je veux dire, ça a été plutôt la relation d'une fonction et d'un visage qui m'a donné ensuite le chemin de voir comment j'allais projeter une énergie ou pas. Et puis après, je les ai rencontrés quand même une journée.
Donc Bunker, c'est un texte qui embrasse tout. On parle de la guerre qui est au dehors. Il y a aussi la fin du monde possible. Donc ils sont coincés dans un bunker. On pourrait imaginer que ce soit une fin possible. Et en même temps, il y a le lien qui revient avec leurs 3 ans de formation. Puisque dans le texte, ils sont coincés 3 ans dans un bunker.
Oui, exactement. En fait, c'était l'idée de partir sur une communauté qui ne s'est pas choisie. En fait, un groupe qui doit faire avec chaque individualité pendant 3 ans, essayer de composer comme ça des relations imposées quelque part. Donc c'était de créer une analogie et puis c'était le début de la guerre en Ukraine aussi, donc la guerre en Europe par extension.
Et ça a été écrit en quelle année ça?
Donc j'ai écrit en 2022 et les premiers mots c'était des réflexions du personnage de Félix qui était comme ça où je me disais que j'avais cette impression parfois qu'on était devenu des idées, de voyager dans un cerveau fou, qu'on habitait l'inconscience du monde. Enfin, il y avait cette chose-là de revoir débarquer la guerre en Europe comme si on n'avait pas de mémoire et comme si en fait, on était assigné à revivre sempiternellement les mêmes erreurs. Et on s'est parlé avec Adama sur comment à la fois parler de quelque chose qui puisse les concerner en tant que groupe dans ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans et aussi de relier ça à l'état du monde. Donc c'est ça qui a orchestré finalement la dramaturgie du texte de Bunker.
Oui, c'est comme vous le disiez, une analogie, une métaphore un peu de 3 ans d'incubation d'un collectif.
Oui, voilà, surtout sur cette base de ne pas s'être choisi en fait. Oui. C'est en général ce qui peut faire aussi communauté comme une communauté d'amis. C'est que ça passe par le choix, le choix réciproque. Là, il y a quelque chose de l'ordre, mais comme la famille. Et puis comment le réflexe est tout de suite d'essayer de fixer des règles de fonctionnement, de légiférer assez vite dans l'anticipation que ça se passe mal. Donc ça aussi, ça raconte beaucoup sur les propres doutes qu'on a de notre humanité en disant...
Alors justement, les doutes, les peurs dans un lieu clos, en quelque sorte, ça parle beaucoup de projection aussi.
Oui, c'est ça. En fait, quand on est sous terre, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus. Donc beaucoup de fantasmes sur ce qui se passe à la surface, beaucoup de spéculation. Évidemment, on connaît une époque qui est prompte à la spéculation, avec toutes les fake news, tout ce rapport comme ça au conspirationnisme aussi. Donc il y avait cette question du réel, de la vérité. Ce sont des questions qui agitent énormément le théâtre aussi. Donc il y avait cette idée-là, oui, effectivement. J'ai beaucoup pensé au mythe de la caverne aussi, ouais, de ça. Platon. Ouais. Voilà. Et puis au moment où ils peuvent sortir, au moment où normalement ils devraient s'engouffrer dans la porte ouverte, ça y est, la le lumière. Signal est donné, et main, le doute s'est installé, ça pourrait être un piège. C'est aussi comment par ressassement, on construit en fait son propre enlisement. C'était cette idée-là aussi qui m'animait beaucoup.
Et puis on fait aussi un lien avec le Covid, parce que finalement, quelque part, on a tous vécu un moment d'une sorte de bunker à ce moment-là. D'ailleurs, les élèves, c'était aussi pendant leurs premières années. Donc il y a forcément un lien, et effectivement, ça accompagne aussi les fake news qu'il y a eu ces dernières années.
Oui, oui, complètement. Sur le Covid aussi, effectivement, ce truc d'être confiné, cette chose aussi du rapport aux symptômes, à un moment donné, quand ils commencent à manquer d'air... Ils ont mal à la tête. Et puis le réseau de distribution qui est arrivé naturellement, on se rend compte que c'est pas illimité. Tous ces rapports-là m'ont beaucoup intéressé. Et puis la liaison aussi finalement avec le Covid, ce que ça nous a appris, c'est qu'aussi on était, étrangement, nous qui nous racontons en tant que société que la culture ou l'art en général peuvent être assez non essentiels. En fait, il y a énormément de gens qui se sont remis à lire. Avoir des films, avoir du temps pour eux. Pas que la culture au sens artistique, c'est aussi, se sont mis à cuisiner, à faire des choses. Et donc j'avais envie de présenter dans cette communauté un retour aussi. Enfin, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font des spectacles, ils font des ateliers d'écriture. Étonnamment, c'est ça qui les tient comme communauté, pour conjurer l'ennui.
Oui, puis alors dans votre écriture, c'est une écriture un peu totale parce que vous évoquez aussi la physique quantique, c'est un peu science-fictionnel, il y a aussi des questionnements métaphysiques. Donc est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, j'imagine, oui, et puis quelles sont vos sources d'inspiration ?
Je pense que toutes les pièces que j'écris font part d'un tourment qui, dans un monde sans Dieu, cherche une forme de clarté. En fait, des êtres tourmentés qui se disent qu'ils ne peuvent pas s'en tenir qu'à la réalité telle qu'elle est là, physiquement, matériellement, en face de nous, et qui cherche un sens un peu plus large. Donc il y a beaucoup de pièces que j'écris qui sont animées par ça. Et là, Dieu n'a jamais été aussi présent. C'est vraiment une pièce où la question de Dieu, aussi parce que je savais qu'il y avait des confessions religieuses différentes dans la promo, et que je me disais, c'est aussi ça une communauté qui ne s'est pas choisie, c'est tout à coup la question du religieux. Qu'est-ce qu'elle devient ? Surtout quand on vit quelque chose dont on ne comprend pas le sens, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. On les a conditionnés pour ne pas poser de questions, et du coup, forcément, cette question-là, quand une catastrophe s'abat, la question de Dieu, et si Dieu existe, pourquoi veut-il que nous vivions ça, m'a beaucoup intéressé aussi.
Oui, puis cette micro-société, finalement, c'est vraiment un miroir de notre société actuelle, où voilà, tous les gens qui y vivent pensent différemment et s'imaginent des réponses qui sont toutes différentes et parfois qui rentrent en conflit. Donc, comment vivre ça ?
Absolument. Ce rapport au système de véridiction, ça c'est quelque chose, c'est la pensée de Bruno Latour, moi, m'a énormément... qui parle de ça en puisant dans plein de champs.
Bruno Latour, il est...
Alors, Bruno Latour, il est philosophe, sociologue, qui s'est aussi énormément intéressé à la science et en fait qui a établi une pensée dans un monde sans fondement et dans lesquels il y aurait des systèmes véridictionnels, donc des systèmes d'une vérité émise depuis une subjectivité et qui correspondent à des catégories. Et pour lui, en fait, des fois, on a des erreurs de catégorie dans comment on essaye d'interpréter les choses. On essaye d'interpréter des choses de la science dans la catégorie du religieux, alors que ce n'est pas du tout le même système de véridiction. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a intéressé parce que je trouve que les personnages sont autant de perspectives en fait, qui peuvent être des systèmes de véridiction en eux-mêmes. Ils ont un point de vue qui va parfois s'aligner avec certains et parfois non. Et je trouve que le théâtre, il est intéressant quand il expose la confrontation de ces perspectives sans en choisir une. Voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bonne âme de Sechuan de Bertolt Brecht qui dit « Le rideau tombe et les questions restent ouvertes ». Et j'essaye de m'appliquer à laisser ces questions-là ouvertes, à vraiment travailler sur quelque chose de l'irrésolu.
Une dernière question, du coup, vous avez découvert ce soir la pièce donc montée. Donc votre ressenti, c'est quoi ?
C'est toujours assez émouvant, de toute façon, d'avoir posé quelque chose sur le papier, de le voir rendu en trois dimensions, d'autant que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un geste de mise en scène comme ça, très, très
fourni. La scénographie est assez impressionnante.
Oui, voilà, ouais, c'est très fourni comme ça. Bah, c'était une expérience très joyeuse, à la fois déstabilisante aussi, parce qu'on a dans la tête quelque chose et puis on découvre autre chose. Et au final, c'était très chouette. Puis de voir la réaction des gens qui étaient là, qui c'est sans doute les familles aussi, des jeunes, puis du public. Enfin, ils ont eu du monde tout pendant les 4 jours. Donc, donc c'était super pour eux. J'étais très content de les voir eux aussi en chair et en os.
Merci Baptiste Hamann et bon vent à vous. Vous travaillez déjà sur une prochaine pièce?
Oui, je travaille sur un prochain spectacle que je mettrai en scène l'année prochaine. Et la tournée d'un spectacle qu'on a joué ici à la Comédie de Saint-Étienne sous 2 versions. À la fois dans la grande salle, un spectacle qui s'appelait Salle des Fêtes, qu'on a joué dans la grande salle, là, et puis qu'on a joué aussi en décentralisation dans le Haut-Lignon, à Saint-Geur, et puis après à la Tourette, dans les Salles des Fêtes. C'est comme ça une première année de lien avec la ville de Saint-Étienne, et la comédie en particulier, et j'étais très heureux de découvrir ce coin, ce théâtre, ces gens.
Merci Jean-Baptiste.